Sanctifiante journée à chacun de vous. Je suis heureux de retrouver bon nombre de visages connus et aimés, et puis beaucoup de nouveaux, grâce à Dieu. Je salue d'abord chacun de vos anges gardiens qui sont là présents. Je salue tous les membres de votre famille qui sont au ciel, tous ceux que vous représentez ici, tout ce petit peuple que chacun porte dans son cœur et que je devine présent. Alors c'est merveilleux de parler du prophète pour la fête du plus grand de tous les prophètes. Jésus lui-même a dit c'est un prophète et bien plus qu'un prophète. Toutes les prophéties sont arrivées jusqu'à lui. Il est l'ultime prophète, la première annonce et le premier prophète des temps nouveaux, comme nous allons le voir. Et par excellence, il est le prophète de la joie. Pour ça, j'ai été heureux d'entendre le texte reçu sur la joie. Son père annonce à Zacharie, sa naissance sera une source prodigieuse de joie, on en exultera. Voilà, il faut que lui grandisse, que moi je m'efface. Telle est ma joie dans sa plénitude, le prophète de la joie. Et nous venons d'entendre dans le cantique de son papa, « Et toi, petit enfant, tu seras prophète. » Et ça, c'est toi et moi, chacun de nous. Tu es petit enfant, donc prophète. Enfant car prophète. Et dans le catéchisme catholique, il est effectivement précisé qu'au baptême, nous devons participer de la mission prophétique de Jésus. Il y a une semaine, à Florence, en Italie, je baptisais un petit enfant russe adopté. Et alors, quand j'ai dit qu'il était prophète, il a saisi mon micro, s'est mis à crier dans le micro avec une joie, il n'en finissait pas. Il a fallu lui ôter le micro un moment. Voilà, il commençait déjà sa mission prophétique. Voilà. Alors, je vais sélectionner 7 flashs, ou plutôt 7 différentes caractéristiques du prophète. Le premier, il regarde et détecte. Il est voyant. Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche de veilleur, etc. Le prophète voit profond, large, haut et loin. Il voit profond. Et ça nous touche déjà dans notre vie quotidienne. Le regard prophétique posé sur ceux qui m'entourent. Voir toujours en lui le plus beau, le plus grand, le plus vrai, le plus authentique, le plus pur, le plus divin finalement, et non pas toutes ses faiblesses, ses carences, ses défauts, etc., ses blessures, et tout ça, voilà. Voir toujours le plus beau. Et l'éveiller lui-même, apporter le même regard sur lui. À Jeunesse Lumière, dont notre école jumelle est ici à Paray-le-Monial, n'est-ce pas, School of Mission, Emmanuel School of Mission, né il y a 33 ans, le même jour, la même année que Jeunesse Lumière, le 30 septembre 84. Bon anniversaire des 33 ans. Voilà. Alors, Jeunesse Lumière, dès la retraite d'ouverture, fin septembre, on se retrouve une trentaine de 15 pays différents, on ne se connaît pas, sauf peut-être l'un ou l'autre, déjà connu, et on fait ce pacte du regard prophétique. On bénit chacun en disant « Merci d'exister, j'ai besoin de toi cette année pour devenir un enfant de Dieu, je te fais toute confiance, tu es un cadeau de Dieu pour moi ». Et le dernier jour de l'année, que nous allons vivre dans 4 jours, on fait un procès mutuel de béatification anticipée. C'est-à-dire chacun dit à chacun, mais devant tout le monde, voilà tout ce que Jésus m'a parlé à travers toi. Tu as été une parole vivante de Dieu pour moi. Voilà tout ce que tu m'as donné, tous les dons, tous les charismes, tous les talents que j'ai découverts en toi. Voilà. Et celui qui écoute, il ne peut que recevoir, chanter le Magnificat, il ne peut pas réagir. Et on note toutes ces qualités qui ont été détectées au long de ces 9 mois ensemble. Et on repart avec un petit carnet, la photo de chacun, avec toutes les belles choses, grandes, vraies, authentiques, qu'on a détectées en lui. Voilà. Éveiller l'autre à ses propres dons et charismes. Le regard prophétique dont parle magnifiquement Saint Jean-Paul II dans sa lettre de route pour le troisième millénaire, mais je n'ai pas le temps de citer. Et au fond, c'est poser sur l'autre le regard de Jésus sur moi, qui lui voit toujours le plus beau, il voit toujours la lumière, il voit ma beauté. Et une des prières qui fait le plus plaisir au Seigneur, c'est simplement dire, comme Claire d'Assise, merci de m'avoir créé, merci pour ma beauté. Voilà. Donc découvrir le diamant, ce n'est pas toujours évident. Le regard prophétique doit percer les apparences. Je me souviens, lors d'une quête dans une paroisse à Saint-Christie, il y a tout un vieux journal dans le petit panier qui avait circulé. Alors je m'apprête à jeter ce vieux journal et je sens que c'est lourd et dur. Alors j'ouvre et qu'est-ce que je vois ? Un lingot d'or qui nous a valu 20 000 euros à la banque. Voilà. Dans un sale papier journal, probablement que le donateur a voulu cacher au voisin son lingot d'or, donc discrètement, il l'a entouré avec le Figaro, je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà. Je ne fais pas de pub pour le Figaro, pardon. Voilà. Alors, ce même regard prophétique, je le pose sur les événements, sur le monde. Détecter au-delà des apparences, au-delà de la surface, tous ces semina verbi qui sont là, ces semences du verbe qui sont présentes dans toute culture, dans toute civilisation, dans toute nation, et que nous devons détecter pour en faire justement des approches de l'Évangile. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Par exemple, justement, la croyance dans la réincarnation, etc. Il y a une pépite d'or qui est perdue dans cette boue marécageuse. C'est le fait du purgatoire, mais qu'il faut être totalement purifié pour voir Dieu, etc., etc., etc. Donc, porter ce regard qui détecte ces petits diamants, même s'ils sont très souillés, voilà, dans un marécage. Il voit profond, il voit large. Le prophète que nous devons être, il a des yeux d'aigle. Il voit l'ensemble des choses. D'abord, dans une existence avec quelqu'un, il essaie de voir son passé, deviner son avenir. Ses horizons sont très, très larges. Sont très larges. Ils sont très larges parce qu'il voit haut. Jean-Paul II a un mot magnifique où il dit « Le prophète est celui qui, avec des yeux d'aigle, contemple la profondeur des mystères de Dieu sur une montagne et ensuite en redescend lumineux et ardent pour porter ce message jusqu'aux extrémités de l'activité humaine. » Voilà, c'est magnifique, voilà. Et là, voir haut, c'est Moïse. Moïse qui monte sur la montagne et il se trouve devant Dieu, intercédant pour son peuple. Et ensuite, parce que d'abord il intercède, il peut intervenir et il redescend de la montagne où, face au peuple, il parle au nom de Dieu. Voilà. Et donc forcément, le prophète est avant tout un contemplatif, un priant. Il ne peut pas parler au peuple au nom de Dieu si aussi, en même temps, il ne supplie pas pour le peuple face à Dieu. Cette montée, cette redescente, on va voir jusqu'où ça va mener. Donc, il voit profond, large, haut et loin. Il voit loin. D'abord, ce regard prophétique sur ceux qui m'entourent, je veux deviner déjà sa gloire future, sa sainteté future. Je ne veux pas voir juste l'enfant blessé qu'il a peut-être été, je veux déjà voir prince glorieux dans le royaume, toujours voir quelqu'un dans son cheminement et surtout dans son accomplissement, son achèvement, pas seulement, voilà, au ciel, je veux le voir au ciel. Et pour l'histoire aussi, je veux décoder le logiciel de tous les événements politiques, économiques, nationaux, internationaux, toujours dans la perspective et la lumière du retour en gloire de Jésus. Sinon, je ne comprends rien. Une fois, j'avais roulé toute la nuit vers l'est, Et tout à coup, le soleil se lève dans l'axe de la route et je vois tous les panneaux de signalisation qui sont éclairés. Et je crois que c'est mes phares restés allumés, mais non, c'est tout simplement la réverbération des premiers rayons de soleil sur les panneaux de signalisation. Voilà. Alors quand nous conduisons notre vie dans l'axe parfait de la rencontre finale avec Jésus au ciel, alors je peux décoder toute ma vie, toute mon existence, parce que je vis dans une lumière qui vient d'au-devant de moi, une lumière d'avenir, voilà. Une lumière d'avenir. Je vois loin, je vois très loin. Et donc, deuxième caractéristique, parce que ça se tient, le prophète prévoit et pressent. Il n'est pas seulement un voyant, il est une sentinelle, sentinelle de l'invisible. C'est parce que nous avons déjà une partie de nous-mêmes qui est au ciel. Nous savons que ce monde du ciel, invisible à nos yeux de chair, est actuel, ça se passe maintenant. À Chamonix, dans la vallée, au mois de novembre, quand il y a du brouillard, vous ne voyez que du brouillard, de la pluie, mais en même temps, pas successivement, mais contemporanément, eh bien, le Mont Blanc est déjà illuminé par les rayons du soleil levant. Et donc, nous vivons tout le temps en fonction de ce monde, nous vivons avec les anges et les saints. D'ailleurs, le passé a basculé dans l'avenir, le prophète est l'homme de l'avenir, tout simplement parce que tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume, pour moi personnellement, mes propres parents, donc une partie physique de moi-même qui est déjà dans l'au-delà, et puis nos ancêtres, etc., tous les saints qui ont précédé, Marguerite Marie, François d'Assise, etc., Claude la Colombière, etc., etc., ils sont dans mon passé chronologique. Ils ont vécu au 12e, 13e, 15e, etc. Mais en fait, ils ont basculé dans mon avenir, puisque je vais vers eux, je vais les voir, je vais les rencontrer. C'est une révolution copernicienne extraordinaire. Et donc, je ne reste pas rivé sur le passé dans la nostalgie d'un passé révolu. Je sais que c'est devenu mon futur, mon avenir. Et c'est toute l'importance théologique capitale des apparitions du Seigneur Jésus ou de sa Sainte Mère et des anges, des saints, c'est justement pour briser et casser cette espèce de mur de béton, la mort n'est que la mort, il n'y a rien après, etc., et qui me fait pressentir mon avenir, ce que je vais devenir. Un jour, ton propre corps sera aussi beau, aussi glorieux que mon corps de gloire. Voilà, c'est comme une porte entrouverte sur notre futur. Donc le prophète est l'homme de l'avenir, l'homme du futur. Jean-Paul II l'a dit dans l'infirmerie de Lisieux. Et les saints ne sont pas les gens du passé, ne vieillissent jamais, ils sont de notre avenir, etc. Les témoins de l'avenir. Et c'est pour ça que les voyants d'une apparition sont vraiment, et c'est comme ces périscopes qui, des sous-marins d'autrefois, pour voir au-dessus de la surface des choses. En plus, quand ils font ces expériences bouleversantes, comme à Fatima, dont nous fêtons les 100 ans, ou à Kibéo, même à Menge, l'expérience en fait, de vision et de l'enfer et du purgatoire et du ciel, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, eh bien vraiment, ils sont prophètes, ils sont sentinelles. C'est impressionnant, Fatima. Impressionnant quand on voit comment tous les événements annoncés se sont réalisés dans toute l'histoire de la libération des pays de l'Est de l'Europe, du totalitarisme soviétique, etc. C'est saisissant. Dans mon livre sur le rosaire, j'ai fait plusieurs pages avec toutes les dates. Mais il y a des choses qui dépassent le siècle. Quand Lucia nous parle, entre autres, des montagnes, cités, villes et villages avec leurs habitants ensevelis, la mer, les fleuves, les nuages sortant de leurs limites, débordant, inondant, portant avec eux dans un tourbillon un nombre incalculable d'habitations et de personnes, sa purification du monde du péché dans lequel il est immergé. La haine, l'ambition provoquent la guerre destructrice. Puis j'entendis dans le battement accéléré de mon cœur, toujours Lucia, Voilà, on ne peut pas tout dire. Il y a Kibeho, puis c'était très, très lié à ces apparitions de Kibeho, qui a annoncé non seulement 10 ans avant l'horrible génocide. Mais ce qui me fait mal, dit la Vierge, c'est que moi, je veux vous libérer d'un gouffre pour que vous n'y tombiez pas, mais vous refusez. Comment pourrais-je, moi, être heureuse alors que je vois mes enfants se prendre en jeu de moi et sont sur le point de se précipiter dans un abîme et de se perdre. Dès lors, moi, je souffre beaucoup, etc. Voilà, ce gouffre. Mais elle termine, heureusement, ne vous troublez pas, rien n'est plus fort que Dieu. Voilà, nous reviendrons sur cette victoire. Alors, tous ces voyants sont des prophètes, évidemment. Et à Trefontane, près de Rome, c'est impressionnant. Tout ce que le voyant a prévu, les deux tours à New York, Tchernobyl, les noms de chaque pape bien avant leur élection. Alors ça, c'est très réconfortant de savoir que le ciel est au courant de tout ce qui va nous arriver. Et que Dieu donne à Marie cette vision d'ensemble de l'histoire de l'humanité. Elle sait déjà tout ce qui va nous arriver. Moi, je trouve que ça nous met dans un état de confiance, de certitude paisible. Je trouve ça merveilleux, merveilleux. Voilà. Troisième caractéristique, le prophète dénonce et proteste, mais pour annoncer et attester. Alors, je commence d'abord à dénoncer et protester. Il est le guetteur. Il voit l'ennemi de loin, qui arrive de loin. Alors là, j'ai un problème concret. Il faut quelqu'un pour tenir mon micro. Si un jeune de l'ISM veut bien venir. Merci, merci, bon, c'est super. Voilà. C'est super. Voilà. Alors là, c'est très intéressant, tous ces textes, parce que le prophète, c'est celui qui sonne le tocsin, qui tire l'alarme, qui sonne le cor quand il voit l'ennemi approcher. Et c'est le grand texte de Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, « Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise, c'est à toi que je demanderai compte de son sang. » Deux fois, en 3 et de nouveau en 33. On n'a pas le temps de tout lire. « Oui, je vais me tenir à mon poste de garde. Sur mon rempart, je vais rester debout. » C'est le veilleur. Nahum, un destructeur s'avance contre toi, monte la garde au rempart, surveille la route, ceinture les reins, rassemble toutes tes forces, prends courage, car il monte vers toi le destructeur. Il voit venir le destructeur et il a le devoir d'alerter le troupeau. Donc c'est très lié au ministère de berger, au ministère pastoral. Oui, je guetterai pour voir ce qu'il me dira, Habakkuk 2. Nahum, ils dorment tes bergers, ils se reposent tes capitaines, et alors ton peuple, il est dispersé sur les montagnes pour le rassembler plus personne. Ça c'est l'écriture. Alors, il faut dire qu'il y a une distinction, en même temps une relation très très spéciale entre le berger et le prophète, entre le pasteur et le prophète. Tous les prophètes ne sont pas pasteurs et tous les pasteurs ne sont pas prophètes. C'est un charisme qui est donné à un certain nombre de pasteurs, mais pas forcément à tous. Ce sont deux ministères différents, mais qui peuvent très bien s'allier. Nous allons entendre justement des beaux exemples de ces bergers, de ces pasteurs qui sont en même temps prophètes. Voilà. Alors, je lis Saint-Augustin, comme il est... Ah non, on verra ça plus loin, etc. Cardinal Bergoglio, voilà. Le manque de vigilance rend tiède le pasteur, le rend distrait, oublieux, indifférent. Il risque d'être séduit par la perspective d'une carrière, la tentation de l'argent, les compromis avec l'esprit du monde. Il devient paresseux, il se transforme en fonctionnaire, en agent public, etc. Parce qu'il manque de vigilance, justement. Il manque de vigilance. Priez pour moi, afin que je ne me dérobe pas par peur devant les loups. Dans l'homélie d'inauguration de son ministère de pape de Benoît XVI, que pape François reprend L'évêque et le prêtre doivent être vigilants, veiller sur leur peuple, faire la sentinelle pour l'avertir quand arrivent les loups. Voilà. Sinon, tu auras du sang sur les mains parce que tu n'as pas prévenu le peuple. Voilà. Tu dois avoir des crampes, donc l'engin va t'aider. Voilà. Einstein, le monde n'est pas dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Et nous allons entendre dans quelques instants d'autres cris extrêmement forts de ces pasteurs-prophètes. Un des plus grands pasteurs-prophètes de notre temps, c'est évidemment notre Jean-Paul II. Il faut entendre comment il a crié. Moi, Jean-Paul II, j'élève ma voix suppliant. Je ne peux pas me taire quand mes frères sont menacés. Ici, je me fais la voix de ceux qui n'ont pas de voix, la voix des innocents qui sont morts. L'eau, le pain leur manquait. Je suis venu écouter le cri des siècles et des générations d'Africains esclaves. Je fais mienne, etc. Ce pape, il parle de lui-même, sang de votre sang, os de vos os. Il vient pour parler devant toute l'Église, l'Europe et le monde, de ces nations et populations souvent oubliées. Il vient pour crier, que ces cris qui retentissent encore dans nos oreilles, ceux qui sont tachés de sang humain répondront à la justice de Dieu. Levez-vous, pas de place pour l'inertie et la lâcheté. Ça c'est, pourtant il est berger de toute l'Église. Mais alors là, c'est le cri du prophète, typique. La guerre à l'ONU. La guerre, c'est une aventure sans retour. Qu'aucun gouvernement n'aille jamais jusqu'à charger d'armes les fragiles épaules d'un enfant. Les enfants sont sacrés. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais plus. De vos mains, laissez tomber les armes. Les armes à la main, on ne peut pas aimer. Nous poussons le cri de l'humanité. Ça suffit. Au nom du Seigneur, nous crions « Arrêtez !» Ça, c'est le prophète qui parle. Et pourtant, berger, voyez. Il nous en faut beaucoup de ces prophètes bergers. Voilà. Celui qui se livre à des exactions aura répondu devant Dieu. Les États n'ont pas le droit à l'indifférence. Leur devoir, désarmer l'agresseur. Ce n'est autre qu'un génocide des Balkans. Tout le monde sait, tout le monde le voit. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Les églises ne peuvent pas se taire. Qu'as-tu fait de ton frère ? Dieu jugera l'humanité sur ce qui se passe sous tes propres yeux. Voilà, on pourrait multiplier des pages et des pages. Voilà, c'est pour ça qu'il prend tous les risques d'aller dans les pays très dangereux. Il refuse que son entourage porte des gilets pare-balles. Il refuse pour lui-même. Au Nicaragua, nous devons y aller, même si cela ne débouche pas sur une grande réussite. Cette Église a besoin d'être consolidée, etc. Nous sommes dans les mains de Dieu, il nous protégera, etc. Donc il dénonce et proteste. Et ici, les actes parlent plus que la parole. Il y a des actes qui sont vraiment prophétiques. Je pense spécialement à l'objection de conscience qui est devenue d'une telle urgence et d'une telle réalité aujourd'hui. L'objection de conscience. Quelques petites... Combien de personnes, pape François, à propos de Jean-Baptiste, justement, combien de personnes payent cher leur engagement pour la vérité ? Combien d'hommes droits préfèrent aller à contre-courant plutôt que de renier la voix de leur conscience, la voix de la vérité ? Voilà. Et vous savez combien Jean-Paul II, sur tout ce qui touche à la vie, nous allons venir dans un instant, a insisté sur ce rôle prophétique de l'objection de conscience. Déjà Einstein disait ce mot magnifique, ne fais rien contre ta conscience, même si c'est l'État qui te le demande. Voilà, entrer en rébellion, entrer en résistance. Voilà, Jean-Paul II, toutes les influences, tous les efforts pour imposer le silence n'arrivent pas à faire taire la voix du Seigneur qui retentit dans la conscience de tout homme. Il existe, et Benoît XVI de renchérir, il existe des tendances culturelles qui cherchent à anesthésier les consciences par des motivations qui ne sont que des prétextes. Voilà. Et donc là, c'est un acte prophétique. Les actes parlent, crient beaucoup plus que les paroles. C'est des cris au-delà de la parole. Je pense dans tout le combat contre le gender, etc., à cet acte magnifique, parfaitement légal, qu'a posé cette petite professeure des écoles musulmanes algériennes, Farida. Je n'ai pas le temps de développer, mais chapeau, bravo, félicitations. Voilà, puisque les paroles n'ont aucune espèce de prise sur le gouvernant, eh bien, on passe aux actes. Voilà, nous allons y revenir. Alors, quatrième... Ah oui, je vais tout de même vous lire quelques textes d'un prêtre, berger, pasteur, vraiment prophète, le cher père Jerzy Popiełuszko, que vous connaissez tous. Voilà. L'État se transforme parfois en apôtre de son Dieu, l'athéisme ou le laïcisme. Il demande à la nation de s'incliner devant un Dieu conçu à sa mesure. Mais nous ne sommes pas la nation d'un jour. Nous sommes une nation chargée de transmettre des forces accumulées depuis 2000 ans. Il faut rester libre au-dedans, même dans les conditions de l'asservissement extérieur. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être esclaves. Notre filiation divine porte en elle l'héritage de la liberté. Mais la liberté n'est pas seulement un don de Dieu, c'est une tâche à réaliser pendant toute notre vie. La vérité est immortelle. Le mensonge périt d'une mort rapide. Pour maîtriser toute la technique du mensonge, il faut beaucoup d'hommes. Il n'en faut que peu pour proclamer la vérité. On a semé dans notre sol national la graine du mensonge et de l'athéisme. Notre devoir, c'est de garder la vérité, put-elle nous coûter. La seule chose dont il faut avoir peur, c'est de trahir le Christ pour quelques deniers de tranquillité. Voilà. Le courage est une victoire sur la peur. Vous voyez, les deux vertus principales du prophète, c'est d'un côté la lucidité et clairvoyance, et de l'autre, l'audace et le courage. Je dirais l'audacieux courage, ou l'audace courageuse. Voilà. Malheur à la société dont les citoyens ne sont pas guidés par le courage, cardinal Wyszyński. Ils cessent d'être des citoyens, deviennent de simples esclaves. Si le citoyen renonce au courage, il devient esclave. Malheur aux gouvernements qui veulent acheter le citoyen au prix de la crainte servile. Mais les idéologies qui s'inspirent du mensonge s'écroulent vite pour maîtriser. Voilà, nous sommes dans une large mesure coupables de notre esclavage lorsque par peur nous acceptons le mal. Voilà. Le prophète est quelqu'un qui est victorieux de la peur parce qu'il est un petit enfant. Et plus il est petit enfant, désarmé, dans les bras de Dieu, plus il est courageux. Vous savez, un mot extraordinaire, là ça me revient tout à coup. Notre cher Benoît XVI, pendant une procession de la fête de Dieu, j'ai entendu de mes propres oreilles, il dit en substance, le chrétien ne s'agenouille que devant Dieu. Mais parce qu'il est à genoux devant son Seigneur, il peut tenir debout devant un dictateur. Voilà. Parce qu'il est à genoux devant son Seigneur, il peut tenir debout devant un dictateur ou un persécuteur. Parce qu'il est à genoux, justement. Et c'est ça qui fait toute notre force. Voilà. La vérité qui ne coûte rien est mensonge. La condition essentielle de l'homme pour lui permettre de vivre en vérité, c'est le courage, etc. Alors, nous passons à la quatrième caractéristique. Il atteste et proclame. Il est héros. Héros, voilà. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Dieu sait qu'il dénonce avec force toutes les formes d'hypocrisie, avec une violence, engeance de vipère, etc. Il va tac, il secoue tout le peuple, etc. Mais pour pouvoir dire avec une douceur infinie, le petit agneau de Dieu, c'est lui. Voilà. Et donc toute cette préparation à essayer de casser tous les obstacles qui pourraient s'opposer à l'accueil du Seigneur qui vient, eh bien, c'est toujours dans la perspective de pouvoir montrer Jésus, de pouvoir donner Jésus. Et finalement, toute l'évangélisation, tous les évangélisateurs ne sont que des petits précurseurs. Nous préparons le chemin du Seigneur. Votre école apparaît, pourrait donner des quantités de fioretti de mission. Moi, je pourrais en donner pendant des heures des fioretti de mission de Jeunesse Lumière. Mais c'est toujours la même chose. Nous sommes les petits précurseurs, les petits anges, les messagers envoyés en avant de lui, mais pour préparer une rencontre personnelle, en tête à tête, en cœur à cœur, d'une personne avec son Seigneur. Voilà, on ne fait que préparer. C'est pour ça que Jean-Baptiste est le premier des évangélisateurs, le premier des missionnaires et le premier des prophètes chrétiens. Voilà. Et nous attirons à la beauté, nous attirons à Dieu en rayonnant de joie. Voilà, comme on attire les poissons en les fascinant par la beauté de la lumière. Voilà. Et c'est le grand combat de l'Église pour la vérité. Et il y a entre autres une vérité capitale, c'est annoncer le futur. Au fond de la grande désespérance de notre temps, c'est ça, c'est qu'on a cassé l'espérance. On croit que la mort, c'est la mort, qu'on va se briser contre un mur de béton. Et c'est pour ça qu'inlassablement, nous devons répéter, mais comme la première urgence en évangélisation, ce mystère fabuleux de ce monde actuellement contemporain, où n'existe plus l'ombre d'un péché, d'un mal, d'une souffrance, d'une horreur, tout ce que vous voulez. Et en plus, donner le passeport et le visa pour y aller, donner tous les moyens pour y aller. J'ouvre le futur, j'ouvre l'avenir. Voilà. Et un deuxième aspect capital parmi tant d'autres de cette annonce de la vérité, cette annonce prophétique de la vérité, c'est le mystère de l'enfant Dieu. Parce que nous sommes d'un côté, vous avez la fascination de la transcendance divine impliquant l'indifférence à l'homme finalement, et de l'autre côté, la fascination de l'immanence, avec le New Age, les ésotérismes, etc., etc., on ne peut pas développer. Et face à ça, la fascination, la transcendance avec l'islam. J'ai été très frappé par une enquête de la police auprès d'adolescentes françaises parties en djihad en Érythrée, Syrie, Irak. Alors on interroge Léa, 14 ans, pourquoi t'es partie là-bas? Eh bien, on m'a dit que là-bas, je vivrais sur une terre où je serais sûr de ressusciter des morts. Elle a mille fois raison, Léa, de vouloir ressusciter des morts. Ça prend le moyen proposé, pas tellement bon que ça, finalement. Voilà. Alors, à sa compagne, j'oublie son nom, 15 ans, petite ado, franco-française, mignonne comme tout et tout. Pourquoi t'es partie là-bas? Ah ben, on m'a dit que là-bas, si je vais tuer les chrétiens, j'entre tout de suite au ciel. Moi, ce que je veux, c'est entrer au ciel. Mais la raison de vouloir entrer au ciel, évidemment, nous le désirons tous, pas vrai? Alors un autre, pourquoi t'es parti là-bas? Ah ben moi, je trouve qu'on ne peut pas vivre sans religion. Et si on a une religion, bon, il faut être prêt au martyr. Et nous, est-ce qu'on est prêt au martyr? Mais c'est bien à Trafalgar Square, à Londres. Une immense manif des musulmans avec des super panneaux comme ça. J'aime Allah plus que ma propre vie. J'ai jamais vu aux Champs-Élysées des chrétiens passer « J'aime Jésus plus que ma propre vie ». Voilà. Et donc, nous sommes devant une génération qui a un soif d'idéal, de choses belles, fortes, et on leur propose des trucs à l'eau de rose. On leur propose des biberons, de rien du tout, leur donner du solide, du vrai, du grand. Voilà. Ça m'a beaucoup impressionné, ces motivations. Voilà. Voilà. J'avais rencontré une équipe de votre école d'évangélisation de parrain dans leur école. Eh bien, au lieu de partir en Érythrée, c'est venu passer un an en parrain. Vous comprenez? C'est un peu mieux que d'aller tuer des mécréants en Érythrée. Si je me trompe, c'est un peu mieux. Voilà. Voilà. Cinquièmement, le prophète intervient et prend la défense. Il est paraclet, il est avocat. Et forcément, du plus faible, du plus fragile, du plus méprisé. Je vais y venir dans un instant. Le prophète, le tout jeune Daniel, avec la merveilleuse histoire de Suzanne, il prend la défense de l'innocente et va la sauver. Attends, je me suis trompé. Ah, pardon. Je parle. Pardon. Vous avez entendu jusqu'à présent ? Non ! Faut tout recommencer. Mais attends, puis vous écouterez l'enregistrement. Voilà. Pardon. Voilà. Et le jeune Daniel, c'est déjà le prophète par excellence, Jésus, devant cette petite femme dite adultère, qui renvoie les hommes à leur responsabilité dans une société où aujourd'hui encore, comme dans le monde islamiste antichrist, la femme, la fille n'a rien à dire. Elle est lynchée publiquement pour adultère, mais le garçon, jamais. Voilà. Et Jésus accepte d'être lapidé lui-même. Tout de suite après, on lui lance des pierres. Et deux jours après, c'est la lapidation, la flagellation. Il est lapidé pour... Et si jamais les hommes avaient commencé à lui lancer des pierres, je suis sûr que Jésus se serait interposé entre les deux. Voilà. C'est le bon larron qui prend la défense de Jésus. Lui, le coupable, qui prend la défense de l'innocent. C'est le contraire de Daniel, voilà, qui prend la défense. Lui, il n'a rien fait de mal. C'est le prophète, le paraclet. Sixième perspective, le prophète lutte et se bat. Il est un chevalier. Devant le mal, il ne peut pas rester passif. Non seulement il doit crier, mais il doit se mouiller. Monter au créneau, monter en première ligne, s'engager. Sinon, c'est de la pure hypocrisie. Ça ne sert à rien de dénoncer le mal en restant tranquillement dans son fauteuil, en pantoufle devant sa télé. Et c'est Moïse, au fond du désert, devant le buisson ardent. Et pour nous, le buisson ardent, c'est l'Eucharistie. Et Moïse est renvoyé à son peuple esclave pour le libérer. Dans le cœur de Dieu, comme nous en adoration, dans le cœur de Jésus, nous entendons résonner tous les cris de détresse du monde. Je vois la misère dans les yeux de Dieu. Il voit la misère de son peuple parce que Dieu la voit. Il entend les cris, les SOS de son peuple parce que Dieu est en train d'écouter ses cris et ses SOS. Vous voyez ? Et c'est pour ça... On ne peut pas se taire. Saint Augustin, combien il est dangereux de se taire pour le guetteur chargé d'avertir. Ne soyons pas des chiens muets, des guetteurs silencieux, des mercenaires qui fuient devant le loup. Grégoire Lecran, le silence du pasteur est nuisible à son peuple. Nous abandonnons le ministère de la prédication. Nous nous taisons. Et alors ils sont tombés et nous ne leur tendons pas la main en les corrigeant encore ceci, j'ai des pages et des pages là-dessus, qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité, se fait complice des menteurs et des fausseurs. Charles Péguy. Alors Jean-Paul II à Ars, j'y étais, a dit ceci. Le curé d'Ars avait le courage de dénoncer le mal sous toutes ses formes, sans complaisance, car il y allait du salut éternel de ses fidèles. Si un pasteur reste muet en voyant Dieu outragé et les âmes s'égarer, malheur à lui. C'est un mot du curé d'Ars répercuté par Gipitou. Pierre Claveri, évêque d'Oran, martyr, nous devons subir silencieusement les absurdités de ceux qui dénirent, déforment, ridiculisent nos convictions. Est-ce qu'il faudra se laisser égorger en silence ? Est-ce faire de la politique de crier son désarroi devant la terreur ? Encore, Cardinal Sin, à Manille, face au mal, neutralité égale complicité. Si la hiérarchie s'était tue sous la dictature, elle aurait mérité le reproche de lâcheté et de complicité avec le mal. Cardinal Ballon, à Lyon, sur Radio Fourvière, il ne faut pas que dans 20 ans, des évêques de France soient tenus de demander pardon pour des silences d'aujourd'hui. Si nous, les prêtres, nous nous taisons, les gens perdront la boussole et ne sauront plus où ils en sont. Père Lichtenberg, canonisé par Jean-Paul II. Moreira Neves, au Brésil, j'accuse la télévision de détruire nos familles. J'appelle à la résistance face au despotisme, face à la tyrannie des médias. Ce sera une guerre de défense. Ah, ça, c'est des bergers prophètes. Voilà, il faut en demander beaucoup au Seigneur. Tugdual Derville, ne sommes-nous pas des embryons retraités qu'on a laissés se développer? Nous seuls pouvons porter leur voix. Aucun sacrifice d'embryon n'a jamais sauvé personne. Mais je ne vais pas plus loin parce que vous l'entendrez demain. Je ne vais pas anticiper sur notre cher Tugdual. Solzhenitsyn, qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout. Mais soyons intraitables, au moins sur ce point, qu'ils ne le deviennent pas pour nous. Une seule parole de vérité pèse plus lourd que le monde entier. Voilà, ces grands prophètes de notre temps. On pourrait multiplier les citations. Alors, il faut voir que nous sommes entrés dans le combat des derniers temps pour comprendre comment, en tant que prophètes, nous devons nous battre. Alors là, la parole de Dieu. Ah non, il y a le truc là-bas. Voilà. La parole de Dieu dans les Thessaloniciens. Doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. L'impie se révélera, mais le souffle du Seigneur le fera disparaître et l'anéantira par la manifestation de la vérité. Nous avons aussi en 2 Tim 3.1, voilà, la vérité. Je n'ai pas le temps de citer, vous n'aurez qu'à voir, vous regarderez Matthieu 24.5 sur les faux messies, les faux prophètes, etc., qui vont se multiplier. Et le catéchisme de l'Église catholique a un mot très fort. Le temps présent est le temps de l'esprit et du témoignage, mais aussi un temps marqué par la détresse et l'épreuve du mal, qui n'épargne pas l'Église et inaugure les combats des derniers jours. C'est un temps d'attente et de veille. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, mais au prix de l'apostasie de la vérité. C'est le mot, le diagnostic médical de Jean-Paul II, l'homme contemporain, l'apostasie silencieuse de l'homme qui se croit comblé sans Dieu. Voilà. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique, toujours notre catéchisme, se dessine déjà dans le monde. Chaque fois que l'on prétend accomplir l'espérance messianique. Voilà. On ne peut pas tout citer, mais c'était déjà Jean-Paul II. Dans la civilisation contemporaine, c'est un tableau de mort qu'on est en train de composer. Et là, nous sommes face, il ne faut pas jouer la politique de l'autruche. Pour se battre sans peur, eh bien, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et notre pape prophète François, justement, ne cesse de dénoncer deux totalitarismes, deux guerres, deux terrorismes. D'un côté, il signale la Troisième Guerre mondiale par morceaux. Et de l'autre, à Cracovie, la guerre mondiale contre le mariage et la famille. Il va même parler que c'est le terrorisme de base. Le second terrorisme, c'est le plus grave. Alors, d'un côté, nous avons le front de l'islam intégriste, je précise tout à fait, intégriste. Ah, pardon, l'islamisme intégriste, d'autre, le libéralisme d'État. D'un côté, le génocide des chrétiens au Proche-Orient, de l'autre, le génocide chromosomique dont vous parlera Tugdual demain. D'un côté, des chaos nationaux, Libye, etc. De l'autre, un gouffre immoral. D'un côté, on égorge des nouveaux-nés. De l'autre, on élimine ceux qui ne sont pas encore nés. D'un côté, on est sommé d'adhérer à l'idéologie du Daesh sous prétexte, sous peine de décapitation, et ici à l'idéologie du gender sous peine de marginalisation de la société. D'un côté, on détruit toutes les œuvres d'art. De l'autre, on déconstruit les stéréotypes familiaux qui est le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre. D'un côté, c'est le trafic des armes et des munitions. De l'autre, le commerce juteux des ovocytes et spermes, même par le net. D'un côté, des fatwas mortifères, de l'autre, des lois suicidaires, où même un enfant peut demander à être euthanasié sans l'accord de ses parents. D'un côté, on lynche pour blasphème, de l'autre, on blasphème la religion, ce qui est le plus sacré aux hommes. D'un côté, les églises rasées, ici, tant d'églises fermées. D'un côté, les cités à feu et sang, de l'autre, toute une culture millénaire en train d'être dynamitée. D'un côté, les filles lynchées, de l'autre, les matrices artificielles. D'un côté, les mariages forcés d'enfants. De l'autre côté, des mariages surtout pas d'enfants. D'un côté, tant d'orphelins de guerre. De l'autre, tant d'orphelins fabriqués qui ne connaîtront, ne pourront jamais connaître leurs parents. D'un côté, les pétrodollars à gogo. De l'autre côté, le trafic du baby business. D'un côté, les enfants qui portent des armes, de l'autre, tant d'enfants en larmes. Et enfin, mot de pape François, d'un côté, la persécution en cagoule noire et de l'autre, la persécution en gants blancs. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'au moins, tout ça, c'est clair et net. Et donc, on est en plein combat, mais nous combattons comme des grands victorieux. La victoire est déjà la nôtre. La victoire, à la fin, mon cœur immaculé que nous fêtons aujourd'hui, triomphera. Je me souviens, en Vendée, quand j'étais petit, je n'osais pas me promener dans le parc à cause des vipères. Mais j'avais jamais peur avec maman parce que je tenais sa main et elle, avec ses talons, dès qu'elle voyait une vipère, tchac, lui écrasait. Tchoum, 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 et moi, j'étais là, tranquille. Voilà. Alors donc, c'est pour vous dire que, alors, sur quoi porte il faut que j'aille vite. Sur quoi porte surtout le grand combat d'aujourd'hui? C'est avant tout le mystère de la vie. Pape François, où es-tu homme? Où es-tu passé? Homme, qui es-tu? Je ne te reconnais plus. Qui es-tu homme? De quelle horreur as-tu été capable? Qu'est-ce qui t'a fait tomber si bas? Qui t'a corrompu? Qui t'a défiguré? Qui t'a inoculé la présomption de t'accaparer le bien et le mal? Qui t'a convaincu que tu étais Dieu? Tu t'es érigé en Dieu. Seigneur, donne-nous honte de cette idolâtrie extrême d'avoir déprécié et détruit notre propre chair. François, encore, tant et tant de projets de déshumanisation de l'homme sont l'œuvre de Satan, simplement parce qu'il est l'homme. Nous voulons suivre les traces de Jésus et non du démon. Avec le démon, on ne dialogue pas. C'est seulement la force, la parole de Dieu qui peut le vaincre, etc. Soyez en première ligne pour vivre sur une terre qui ne devra plus pleurer des jeunes et des enfants qui finissent détruits dans la main des trafiquants de la mort. C'est une crise non pas économique ou culturelle, c'est une crise de l'homme. Ce qui est en crise, c'est l'homme. Ce qui peut être détruit, c'est l'homme. Il y a des Hérodes qui trament des desseins de mort, qui détruisent le visage de l'homme et de la femme dès son homélie inaugurale. Nous sommes des gardiens de la création. Ne permettons pas que la destruction et la mort accompagnent la marche de notre monde. Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas une lutte politique, c'est la prétention de détruire le plan de Dieu. Pas seulement un projet de loi, c'est une motion du père du mensonge qui cherche à semer la confusion et tromper les enfants de Dieu. On ne peut pas dialoguer avec l'ennemi de notre salut. Il nous fait faire face en le combattant, jusque dans ses intentions. Un chrétien doit savoir ce qu'il peut accepter et ce qu'il doit condamner. Pape François, voilà un prophète. Et alors, il pique des saintes colères chaque fois qu'il fait allusion à cette idéologie dynamitant l'humanité du gender. Il en parle comme pire que la bombe atomique, faut le faire. Nos enfants ne sont pas des cobayes de laboratoire. J'exprime mon refus de toute forme d'expérimentation éducative sur les enfants. On ne peut pas faire des expériences avec des enfants et des jeunes. Les horreurs de la manipulation éducative vécues durant les dictatures génocidaires du XXe siècle, nazisme et communisme, n'ont pas disparu. Elles continuent. Elles gardent leur actualité dans des propositions qui poussent les enfants à marcher sur la voie dictatoriale de la pensée unique. Quand on envoie un enfant à l'école, on se demande si ce n'est pas dans un camp de rééducation idéologique. Nous posons la question, quel monde allons-nous léguer à nos enfants? Mais moi je pose la question, quels enfants allons-nous léguer au monde? Encore, toujours François, l'homme se... on peut pas tout lire. Soyons attentifs aux nouvelles colonisations idéologiques qui détruisent la famille, etc., 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 etc. Des quantités. Alors donc, ce combat pour la vie dont vous parlera Tuc Dual demain est forcément pour sauver, protéger le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre de Dieu et qui est justement ce mystère fascinant et éblouissant de la sexualité de l'homme et de la femme. J'ai pas le temps d'étendre ça, etc. Mais nous ne pouvons plus nous taire quand nous voyons ce viol psychologique des enfants. Mais il faut hurler, il faut crier, dire à un petit garçon déjà de 2-3 ans, t'as un corps de mâle, mais tu peux être une petite fille en même temps, il n'y a aucun problème. Voilà, t'as un corps de femelle, mais tu peux être un garçon en même temps. Puis à 6-7 ans, il y a toutes nos cliniques, les Transgender Kids Clinics qui font florès aux États-Unis, tu choisiras ton sexe, etc. Mais c'est criminel! Vous traumatisez un enfant pour toute sa vie! Comment peut-on se taire? Comment est-ce qu'il n'y a pas mais des millions de parents dans la rue? On a perdu le bon sens humain. Évangéliser aujourd'hui, c'est devenu synonyme de ramener les gens au simple bon sens humain. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais comment ne pas être dans des colères devant les horreurs? Mais si vous saviez tout ce que je sais... Vous aurez des cauchemars. D'ailleurs, je me permets de faire de la pub. J'ai développé, approfondi, creusé tout ça dans un gros livre d'études que vous devez donner à tous les parents, à tous les éducateurs et professeurs sur gender, identité, homosexualité, etc., etc. Très, très creusé. Parce que c'est une épouvantable, et c'est une hégémonie mondiale. Dans les 40 pays où je vais, le gender est maintenant imposé de force, sans demander aux gens. Rien à dire, rien à faire, il est décidé comme ça, c'est vraiment le totalitarisme, c'est la dictature mondiale, voilà. Et donc nous voulons sauver la famille. Et là, je laisse le micro à un roi, qui n'est pas seulement berger, mais un roi prophète, le roi Baudouin, devant tous les chefs d'État d'Europe. Peut-être attendez-vous dans des chefs d'État qu'ils placent l'harmonie familiale parmi les biens nécessaires à l'enfant et à l'adolescent. Eh bien oui, je le fais avec une intense conviction. Un moment où en Europe, les liens matrimoniaux sont souvent mis en question par une fausse conception de la liberté. L'origine de nombreuses maladies de notre monde actuel se trouve dans l'absence d'un foyer chaleureux. En matière de démographie, les conséquences des comportements actuels vont bien au-delà du présent. La marque en est imprimée de manière indélébile pour plus d'un siècle. Alors là, c'est vraiment, il voit loin. La paix n'est pas seulement affaire de gouvernement. Elle se construit dans l'âme des peuples. Quand les hommes et les femmes de ces peuples ont confiance les uns dans les autres, la paix familiale n'est jamais un bien acquis définitivement. Elle se construit chaque jour entre conjoints par le dialogue, la confiance, le respect réciproque, la réconciliation. Et dans ce climat, dès le plus jeune âge, l'enfant fait l'apprentissage de la paix. Il deviendra artisan de la paix. Autrefois, la guerre menaçait nos pays et nos foyers. Aujourd'hui, elle menace nos esprits et nos intelligences. L'ancien impérialisme visait à conquérir des territoires, le nouveau à dominer des intelligences. Roi, prophète. La jeunesse est la première victime de la guerre, le premier fruit de la paix. Il faut 20 ans de paix pour faire un homme, 20 secondes de guerre pour le détruit. Voilà. Et c'est pour ça qu'il, comme prophète, il va se faire la voix des sans-voix, la voix des petits-enfants non-nés, avec ce refus héroïque, vous rappelez, de signer la loi légalisant l'avortement. En disant, le roi doit toujours être du côté des plus faibles, des plus petits. Voilà, le prophète défenseur, le prophète avocat. Avec une pointe d'humour, serait donc le seul Belge qui n'aurait pas le droit de faire objection de conscience. Merveilleux. Voilà. Et son neveu a fait la même chose pour l'euthanasie, Henri de Luxembourg. Je n'ai pas le temps de développer. Alors, je vais terminer. Je termine avec le prophète, septième et dernier point, donne sa vie vers son sang. Le prophète est martyr, toujours prêt au martyr. Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est martyr? Pourquoi est-ce qu'il y a une fête de son martyr en rouge? Il n'est pas martyrisé directement pour Jésus. Hérode ne lui dit pas ce que tu crois dans Jésus, etc. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il prend la défense de la famille d'Hérode et de la famille de son frère Philippe. Comme Jean a été le témoin des noces de l'Église et de Jésus, il est le parrain de l'Église, il a parrainé l'épouse, il a arrangé cette rencontre au soir du baptême. Il sait la dimension ecclésiale, je dirais, du mystère du mariage. Comme il a été le témoin physiologique de la Trinité, il voit l'Esprit, il entend le Père tout en touchant la chair du Verbe, il sait que la famille, c'est le sacrement de la Trinité sur terre. Et c'est pour la famille qu'il est zigouillé. C'est le premier martyr pour la famille. Premier martyr. Et les martyrs, vous voyez, sont l'Eucharistie vivante. Ceux qui rendent amour pour amour. On ne peut jamais séparer l'agneau et ses petits agneaux. C'est pour ça que chaque messe doit être célébrée sur des reliques, non pas de saints, mais de martyrs saints. Et dans le grand corps de l'Église, le cœur, sacré cœur de l'Église, ce sont les Églises persécutées. Vous savez, le cœur transpercé de Jésus, c'est le cri ultime, au-delà de toutes les paroles, comme si Jésus, en arrivant au Père, lui disait, papa, écoute, voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup d'homélies, de sermons, tout ça, mais au cas où toutes mes paroles ne toucheraient pas certains cœurs endurcis, je vais encore parler. Ah oui, mais le problème, mon fils, c'est que tu es un homme jusqu'au bout, et les hommes, après la mort, ben, ça ne revient pas, etc. Il faut que tu assumes ton humanité jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va faire? Trait de génie de l'Esprit-Saint, un geste, un cri, plus fort que toutes les paroles. On n'a pas besoin de traduire. Et le geste très, très doux du centurion qui nous saigne, qui a peur de faire mal. Et puis le jaillissement. Et puis Marie qui met sa main sur le sanctuaire pour faire comme un bandage pour que toutes les générations voient le côté ouvert. Il n'y a que Marie, ou peut-être Marie-Madeleine, je leur demanderai. Eh bien, dans le camp de l'Église, le cœur jaillissant en vie divine, ce sont nos martyrs d'aujourd'hui. La dernière vision de Fatima après l'attentat de Jean-Paul II. Deux anges avec des arrosoirs en cristal sous les mains blessées de Jésus et ils arrosent le désert qui en devient un verger. Mais quel est ce sang ? Pas celui de Jésus. Celui des martyrs de Jésus traversant les plaies de Jésus. Ça, c'est extraordinaire, Fatima, voyez. Et nous venons de fêter le jubilé d'or à Rome du renouveau, et on l'a fait sur le Circo Massimo, et le pape a rappelé que c'est un lieu de martyrs. Et la première rencontre internationale du renouveau, en 75, j'avais la grâce d'être là, c'était sur les catacombes. Nous avions dressé nos chapiteaux dans les champs moissonnés de... déjà moissonné au-dessus des catacombes, pour montrer que nous étions la moisson de tout ce que les martyrs ont semé dans leur sang. Voyez. Et donc tout le renouveau, toute la grande Pentecôte que nous vivons dans le monde, elle s'origine dans nos martyrs actuels. Je l'assume bien, je donne une session de 15 heures de cours chaque année sur les martyrs uniquement entre 1916, génocide arménien, et 2016, génocide au Proche-Orient. Rien que sur 100 années. Voilà. Quand nous pensons qu'en ce moment même, en ce moment, parce qu'on ne parle des massacres là-bas que quand c'est un grand nombre, etc., tout un bus, une église. Mais il n'y a aucun journaliste dans les montagnes perdues du nord du Pakistan. Il n'y a aucun journaliste dans les déserts du Sud-Soudan ou du Sud-Égypte. Il n'y a aucun journaliste. Et c'est tous les jours que nous avons des filles chrétiennes violées, kidnappées, obligées de passer à l'islam, se retrouvant dans les harems des caïds d'Arabie Saoudite et les autres. Et personne ne dit rien, personne ne dit rien, parce qu'on a peur pour notre pétrole, notre pétrole, nos pétrodollars. Voilà, notre sang ne vaut rien à côté de votre pétrole. Et ça se passe en ce moment, dans les deux bus là, en Égypte. Les petits-enfants qui ont vu tuer leur maman, qui refusent de renier Jésus, qui montent fièrement leur croix tatouée sur leur poignet. J'ai connu un petit enfant de 12 ans. Alors il disait, où est ta croix? Alors je monte la croix. Oh non, mais cette croix, on peut te l'arracher, il n'y a pas de problème. Tandis que celle-là, personne, jamais, ne pourra te l'arracher. Quel stimuli pour nous! Mais alors là, on est secoué. Et en France, nous avons notre petit père Jacques. Quel privilège! Quel honneur! Quelle grâce faite à l'Église de France de pouvoir offrir un vrai martyr de sang, comme on n'avait plus connu depuis la Révolution, du moins en France. Voilà. Et que notre pays ait part à ce privilège de tant de pays où nos frères sont martyrisés. Voilà. Et si jamais il est béatifié, il faut absolument que François béatifie en même temps Andrea Santoro, le père Raguel, le père Raoul, Monsieur Raoul, etc. Tous les petites sœurs au Yémen, etc. Mais tous ces gens qui ont préféré tout perdre plutôt que de perdre Jésus, qui ont préféré perdre la vie plutôt que renier la vie. En ce moment, pas il y a un siècle ou deux siècles, vous voyez. Et j'oserais dire que Marie est tout spécialement présente là. Parce que Marie, avec une croix, on pense que les croix romaines étaient très basses à cette époque-là en Palestine, elle pouvait étreindre son enfant, essuyer sa poitrine, entendre les derniers battements de ce cœur qui s'est formé en elle au 18e jour, quand Élisabeth a fait cette échographie. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, Jean-Baptiste, à la fin, il est martyr pour la famille, mais parce que dès la visitation, il fait l'échographie de Marie, et Marie ne dit pas cette espèce de petit kyste de cellules indifférenciées que tu peux éliminer. Elle dit, le fruit de tes entrailles, ton enfant, en plus, mon Seigneur, mon Dieu. Jean-Baptiste est le premier témoin de la vie dès sa première éclosion. Jésus est conçu depuis seulement 5 ou 6 jours. Et déjà, Jean-Baptiste, c'est toute sa joie, reconnaît un enfant est là, d'emblée immortel. En plus, c'est Dieu. Alors là, faut le faire. Voilà. Et donc, aux deux extrémités de sa vie, il est le témoin de la vie. Applaudissons Jean-Baptiste en ce jour de sa fête. Voilà. Alors, il faut terminer, hélas. Il faut terminer. Et d'ailleurs, Marie, au pied de la croix, puis c'est sa fête aussi, eh bien, elle est le sacrement du Père. C'est après avoir dit le mot « Mère, voici ta mère », que enfin, il peut de nouveau dire « Père ». Et Marie peut dire « Tu me vois, tu vois ton Père ». Non, non, mon petit, le Père ne t'abandonne pas parce que moi, ta mère, je ne t'abandonne pas. À ce moment-là, elle est le sacrement de l'invisible présence du Père. Comme si le Père se retirait un petit peu de l'insensibilité de Jésus pour que toute la place soit laissée à Marie. Et le fruit des martyrs, c'est tous les saints d'aujourd'hui, les saints jeunes, les saints enfants, les prophètes de la vie, Chiara Corbella à Rome, qui deux fois refuse d'avorter un tout petit portant de gros handicap. Et puis enfin, le troisième est merveilleux. Et voilà, elle a attrapé un cancer, donc c'est le choix entre la maman et la fille, notre merveilleuse Chiara Corbella, qui va bientôt... Ça, c'est les prophètes de la vie, les prophètes de la chasteté, les jeunes prophètes de la chasteté, la petite Jeanne-Marie Quégelin, le jour du cœur de Jésus. Elle vouait toute sa vie à faire connaître le cœur de Jésus. Elle priait toute la soirée avant, martyrisée le jour du cœur de Jésus. Il faut beaucoup la prier. Les martyrs de la chasteté, Myriam Ashkar au Liban, il y en a tellement. Voilà, tous ces jeunes martyrs, Akash Bashir au Pakistan, qui donne sa vie pour sauver 200 personnes dans l'église qu'il doit protéger. Tant et tant, j'en ai parlé dans les prophètes de la joie, les prophètes de la beauté, je prépare en ce moment les prophètes de la lumière, les prophètes de l'unité à Bouta, au Burundi, figurez-vous. 40 jeunes massacrés dans leur dortoir. J'ai vu les balles, toi aussi tu as vu ça, les balles dans les murs du dortoir qui est toujours actuel. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être séparés par ethnie. Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous ne nous séparez jamais de nos frères. Et chante le Notre Père pendant qu'on les découpe en morceaux. Voilà. Les prophètes de l'unité, les prophètes de la charité, les prophètes de la communion fraternelle, etc. Voilà. Il y a les prophètes martyrs de l'évangélisation, ces petites américaines tuées dans leur lycée parce qu'elles annonçaient Jésus. Voilà les grands prophètes. C'est ça pour dire que le martyr, c'est le sommet du prophétisme. Voilà. Et il faut être tous prêts au martyr, même si le Seigneur va nous demander d'autres formes de martyr, évidemment. Mais je crois qu'il faut arrêter, mon pauvre frère. Oui, c'est ça, voilà.